Chapitre 6. La lumière rouge provenait de la forêt de pénitents et des parois de glace verticales contiguës du côté sud de la grande crevasse que nous avions franchie, d'abord grâce à une échelle, puis, après l'effondrement de celle-ci, en descendant et en remontant par le précipice à quelques centaines de mètres à l'est. Les reliefs de glace à l'est de notre chemin ressemblaient plus à de hauts et fins fourreaux transparents, aiguisés comme des rasoirs, qu'aux pinacles de l'auge. Et c'est de ce labyrinthe qu'émanait le rougeoiement surnaturel. Sans un mot, le diacre fit signe à Jean-Claude de passer en tête, et nous suivîmes notre guide de Chamonix à travers un réseau de crevasses recouvertes de neige. Nous savions qu'elles étaient là, parce que nous les avions vues en plein jour, chaque fois que nous avions traversé le glacier entre les camps 2 et 3. J'ignorais comment J.C. réussissait à les éviter de nuit. Les nuages étaient encore bas, le brouillard s'enroulait autour de nous comme des tentacules gris, et il n'y avait aucune lumière en provenance de la lune ou des étoiles. Le diacre avait navigué jusqu'ici en partie à l'instinct, en partie grâce à ses souvenirs, et en allumant, l'espace de quelques secondes, la lampe de mineur qu'il avait attachée à sa cheville droite, le temps d'éclairer la glace, la neige ou le roc juste devant lui. Presque chaque fois qu'il avait allumé la petite lampe, il y avait eu une baguette surmontée d'un drapeau rouge dans les 3 mètres. Il n'utilisa pas sa lampe de mineur quand nous approchâmes des arêtes de glace rougeoyante, mais nous les fit contourner par le sud. La brume mouvante diffusait l'éclat brillant, au point que l'air était cramoisi. Le diacre nous fit signe de nous baisser et nous obtempérâmes, répondant aussi vite que des chiens de guerre bien dressés. Il pointa le doigt vers J.C., puis vers un pinacle bas à gauche de l'ouverture dans l'arête de glace, toucha sa poitrine et montra l'arête à droite. J.C. hocha la tête. Les deux hommes s'élancèrent au même instant, semblant courir sur les pointes de leurs crampons, projetant des éclats de glace qui étincelaient une seconde telles des gouttes de sang gelé dans l'air froid de la nuit. Tous deux se collèrent contre leur colonne de glace comme s'ils s'apprêtaient à fracasser une porte pour pénétrer dans une pièce dangereuse. Puis, sur un mouvement de tête presque imperceptible du diacre, ils s'engouffrèrent par l'ouverture, pistolets au poing. Aucune cartouche ne fut tirée. L'espace de quelques secondes angoissantes, ils furent hors de vue. Puis J.C. réapparut et nous fit signe de les rejoindre. Passang passa le premier, puis moi, puis Reggie. Nous avançâmes avec prudence dans l'obscurité teintée de rouge, tentant de suivre les empreintes du diacre et de J.C. dans la neige. En arrivant devant l'ouverture dans l'arête de glace, nous vîmes que la lumière rouge venait d'une lanterne électrique moderne, une boîte noire avec une ampoule à l'intérieur et qu'une lentille rouge avait été posée sur la lentille transparente. Le sol de l'espace délimité par les piliers de glace était quadrillé d'empreintes de pas. Un piège, commença Passang. Une haute forme sortit en tourbillonnant de derrière un pénitent pour se ruer vers Reggie. J'eus juste le temps d'apercevoir une silhouette couverte de longs poils gris, avec une face gris-blanc aux traits acérés, comme un crâne humain retourné. Ensuite seulement, je vis l'objet en acier noir dans sa main droite. Je demeurai figé sur place, mais pas Reggie. Elle mit un genou à terre, et quand la forme poilue, le bras brandi, ne fut qu'à 2 mètres d'elle, tira avec son pistolet Véry. La fusée rouge ricocha sur la poitrine de l'assaillant et l'atteignit dans la chair tendre sous son menton, tandis que son vêtement de fourrure s'enflammait. L'homme releva brusquement son masque de squelette, révélant une deuxième bouche très humaine et grande ouverte, qui parut lâcher des flammes rouges plutôt qu'un cri. Il tourna sur lui-même une fois, deux fois, trois fois, le feu sur sa poitrine illuminant le double visage grimaçant, tel une chandelle rouge à l'intérieur d'une citrouille de Halloween, puis se volatilisa. Il ne disparut pas derrière une arête ou un pinacle de glace. Un instant, il se consumait en tournoyant et en projetant des étincelles, et l'instant d'après, plus rien. Puis je vis l'éclat rouge montant de l'intérieur du glacier. Je me précipitai vers Reggie. « Vous allez bien ?»
Oui, merci Jake.
Son haleine aussi était rouge dans la lumière qui semblait émaner de la glace sous nos pieds. Elle introduisait calmement une nouvelle cartouche dans son pistolet de détresse. Me tournant, je voulus m'élancer vers cet éclat à nos pieds, mais Jean-Claude m'arrêta en posant une main solide sur ma poitrine. « Crevasse !» dit-il. Il me tendit l'extrémité de la corde qu'il avait nouée autour de lui, et à plat ventre, rampa jusqu'au bord du trou circulaire dans la neige. Je vis le dernier éclat du feu moribond se refléter sur son visage. « Le bord est solide !» murmura-t-il par-dessus son épaule, et il nous fit signe d'approcher. Le diacre et moi avançâmes à plat ventre en nous aidant de nos coudes et regardâmes vers le fond de la crevasse de 2 mètres de large. Le diacre avait apporté sa torche électrique qui projetait un faisceau bien plus lumineux que les lampes de mineur. Il la tint à bout de bras à l'intérieur de la crevasse avant de l'allumer, sans doute pour éviter qu'elle soit vue par d'autres qui auraient pu se trouver sur le glacier. Je faillis détourner les yeux tant était choquante la face blanche de squelette qui semblait nous regarder 10 mètres plus bas. Puis je compris qu'il s'agissait du masque porté par l'assaillant, qui avait dû glisser sur le haut de son crâne pendant la chute. Sa tête pendait en avant, dissimulant son visage. La longue veste de fourrure se consumait encore sur son torse et son cou, et une ignoble odeur de chair brûlée montait avec la fumée jusqu'à nous. Je me félicitais que Reggie ne se soit pas approché. L'homme avait basculé en arrière dans la crevasse et s'était coincé là où elle ne mesurait plus que 30 centimètres de large. Il était évident qu'il avait la colonne vertébrale brisée. Les semelles cloutées de ses bottes nous faisaient face, tout comme le masque de Yeti sur le haut de son crâne et à la lueur du feu et de la lampe électrique du diacre, nous vîmes ses mains gantées, inertes, dans son giron, avec un Luger noir de 9 mm. La compression de la chute avait plié son corps en une forme de V qui s'était logée dans l'entonnoir de la crevasse. Elle s'élargissait de nouveau en dessous jusqu'à des abysses noirs en apparence insondable. Le diacre éteignit sa lampe et nous nous éloignâmes du bord du trou pour rejoindre Passang et Reggie. « Il nous faut ce pistolet, » murmura le diacre.
« J'y vais. » proposa Jean-Claude. « Je suis le plus léger, et j'ai mes piolets marteaux. Richard et Jake, vous pourrez m'assurer. »
« Non, Jean-Claude, » répondit le diacre après une infime pause. « Nous assurerons Jake. Je ne veux pas qu'on entende le bruit du piolet, et Jake a les jambes les plus longues et les plus robustes. Il pourra remonter de la crevasse comme si c'était une cheminée. » Je vis la surprise sur le visage de J.C. « Nous devons récupérer ce pistolet. » reprit le diacre, « mais ça va nous retarder pour prévenir les Sherpas au camp 3. Il est peut-être même déjà trop tard, mais il faut essayer. Jean-Claude, vous êtes le meilleur grimpeur sur le glacier. Prenez Passang pour vous servir d'interprète et montez tous les deux au camp 3 aussi vite que possible. Évitez d'utiliser les lampes frontales sauf absolue nécessité. Si vous arrivez là-bas avant ces salauds, établissez un paramètre de sécurité avec les Sherpas. Vous ne disposerez que de mon Webley et de vos pistolets de détresse à tous deux. Nous viendrons vous prêter main forte dès que possible. Avec le Luger, j'espère. » Jean-Claude hocha la tête, mais Reggie intervint.
« Non, Richard, laissez-moi plutôt accompagner Jean-Claude. Passang est bien plus fort que moi, il vous aidera à assurer Jake. Et je pense que les Sherpas m'obéiront un petit peu plus vite. »
Le diacre prit une seconde pour évaluer la suggestion et hocha la tête. « Vous avez raison. Allez-y, et soyez prudente. » Reggie et J.C. échangèrent un coup d'œil, puis s'éloignèrent vers le nord-ouest et la piste marquée par les baguettes de bambou sans un regard d'adieu. Une seconde, ils étaient encore visibles dans la lumière rougissante de la lampe électrique de notre assaillant. La seconde d'après, ils avaient disparu dans l'obscurité brumeuse. Le diacre sortit un long rouleau de corde de son lourd sac à dos et me tendit l'extrémité. Puis il retourna en rampant jusqu'au bord de la crevasse et enfonça la panne du long piolet de Passang de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au trou. À 30 centimètres en retrait, il enfonça son piolet marteau aussi profondément qu'il le put dans la neige dure, puis coupa une longueur de corde et la fixa autour de la tête du marteau qui servirait d'ancre à celui de Passang. Pendant ce temps, j'avais attaché une double longueur de corde miracle autour de ma taille et du haut de mes cuisses, pour former une sorte de baudrier, puis nouer la corde une seconde fois avec un nœud à friction. À environ 2,50 mètres du bord de la crevasse, le diacre planta son piolet dans la glace, l'enroula 2 fois avec la longue corde autour, la passa sur l'épaule de Passang pour l'assurage, puis l'enroula autour de sa propre épaule. « Tirez deux fois pour qu'on arrête de vous descendre, » me dit-il. « Une fois pour avoir un peu plus de mou, trois fois pour remonter. » « Vous voulez autre chose que le lougar ?» Le diacre secoua la tête. « J'aimerais avoir le corps entier pour pouvoir l'examiner et découvrir contre qui et contre quoi nous nous battons. Mais il est coincé et nous perdrions trop de temps à le remonter. Si vous avez accès à ses poches, en revanche, fouillez-les. Cherchez une boîte de cartouches et des documents ou papiers d'identité qu'il peut avoir sur lui. Mais ne prenez pas de risques inutiles. Avec sa colonne vertébrale cassée, il n'est plus qu'une masse molle et risque à tout instant de tomber dans les profondeurs. Je fis signe que j'avais compris, fixai ma lampe frontale, l'allumai et m'approchai du bord du trou. Une fois que Passang et le diacre furent bien campés en position d'assurage, je me penchai en arrière et commençai à descendre en rappel dans la crevasse fumante, mes crampons mordant dans la paroi tandis que le faisceau de ma lampe me montrait des fragments de glace bleutée dans le mur, aussi coupants que des poignards. Une fois au niveau du cadavre, que j'évaluais à présent à moins de 15 mètres de l'ouverture, je tirais deux fois sur la corde au-dessus du nœud à friction, me retournais, collais mon sac contre la paroi que je venais de descendre en rappel et passais une jambe de chaque côté du corps en enfonçant mes crampons dans la paroi opposée. Le cadavre et moi étions tout près l'un de l'autre. Il n'y avait plus de flamme sur la peau de mouton ou la fourrure qui recouvrait sa veste, mais quelque chose brûlait encore en dessous. Je compris que c'était la chair sur la poitrine et le cou du bonhomme. Je me penchai autant que possible vers son visage, bougeant au ralenti afin de ne pas risquer de faire tomber le lougar dans l'abîme, et tendis lentement les doigts gantés de ma main gauche vers l'arme. Je l'avais. Avec précaution, je le fourrai à l'intérieur de ma chemise, sous mon pull, mon duvet et ma veste Shackleton. Je tomberais peut-être au fond de cette crevasse, la lumière de ma lampe ne m'avait pas révélé de fond, seulement des parois de glace déchiquetées et des centaines de mètres d'obscurité, mais ce pistolet ne m'échapperait pas. J'examinais le masque sur la tête du type. Il semblait sculpté dans une sorte de bois blanc léger, et des rides exagérées avaient été peintes dessus. Les dents dans l'ouverture pour la bouche étaient des vraies, des dents de loup ou de gros chien. Je vis qu'elles avaient été collées dans des encoches creusées dans le bois. Je tapotai les poches du pantalon. Large, il avait été recouvert d'une espèce de peau de mouton hirsute teinte en gris pour ressembler à de la fourrure. Mais je ne sentis rien d'assez solide pour être une boîte de cartouches. Je devinais la présence de papiers, mais ne pensais pas pouvoir les atteindre sans déplier le cadavre et risquer de le faire tomber. Merde. Puis je braquai le faisceau de la lampe sur son visage et j'eus le souffle coupé. À première vue, on aurait dit que des goraks lui avaient mangé les yeux et qu'on lui avait versé de la cire liquide sur les joues. Puis je compris que ses yeux avaient explosé puis partiellement fondu dans la chaleur du feu. C'était l'humeur vitrée de ses cavités oculaires qui avait coulé sur ses joues telle de la cire chaude. Il avait la bouche grande ouverte, comme en une ultime parodie de surprise face à sa mort terrible. Et de la fumée, provenant de la fusée de Reggie qui lui avait traversé la mâchoire, en sortait telle l'haleine répugnante d'un charognard. Je dus détourner la tête et poser la joue contre la paroi glacée pendant une minute pour respirer de l'air plus sain et ne pas vomir. Mon changement de position, ou un mouvement du glacier lui-même, déplaça légèrement le cadavre. Les bottes de l'homme se rabattirent sur ses épaules, et il se mit à glisser. Passant par un goulet de moins de 30 centimètres, son corps démantibulé se repliant comme quelque accordéon obscène. Puis il disparut. L'espace de quelques secondes terribles, les pointes de mes crampons glissèrent sur la paroi opposée. Le cadavre avait dû me frôler en tombant, mais j'eus plutôt l'impression qu'il m'avait saisi par la cheville dans une tentative de m'entraîner dans sa chute. Mon cœur battait à toute allure. Et je n'arrivais pas à inhaler assez d'air dans la crevasse froide pour me remplir les poumons. Et soudain, je ne tins plus que par la corde, mes crampons ayant perdu toute prise sur le mur de glace. Je descendis de 40 ou 50 centimètres avant que Passang et le diacre ne me retiennent grâce à leur assurage. La corde miracle ne rompit pas, mais je la sentis se tendre plus que ne l'eût fait une de nos vieilles cordes. Sans perdre de temps, je me retournai, plantai les pointes de ma botte droite dans le mur ouest, j'enfonçai mes crampons gauches dans le mur est. J'écartai les bras pour l'équilibre et je commençai à escalader comme dans une cheminée, après avoir tiré 3 fois sur la corde. À n'importe quel moment, l'un des tueurs pouvait apparaître sur le glacier, là-haut, et je ne tenais pas à rester coincé dans cette crevasse. Enfin, j'émergeais du froid glacial de la crevasse et je roulais à l'extérieur. L'espace d'une seconde, je sentis dans mon dos le piolet de Passang qui avait empêché la corde de s'enfoncer dans la neige du bord du trou. Me mettant à genoux, je dégageais les 2 piolets, me levais, puis m'écartais de quelques pas, tournant toujours le dos à mes 2 amis. Tous 2 haletaient. Assurer un homme de presque 100 kilos est un exercice difficile en soi et sacrément éprouvant à 6000 mètres d'altitude. Me penchant en avant, je posai les mains sur mes genoux et me mis à cracher mes poumons sur le glacier. «
Cette toux a empiré, Monsieur Perry, » dit Passang.
Il s'éloigna dans l'obscurité rougeoyante et fouilla dans son sac à dos.
« Nous n'allons sûrement pas surprendre d'autres yétis si vous continuez à tousser comme ça, » dit le diacre. « Vous avez le pistolet ?»
Je fourrai la main dans ma chemise, là où le métal froid semblait me brûler à travers plusieurs couches de soie et de coton, sortis le Luger et le tendit au diacre. Il soupesa le semi-automatique comme s'il savait s'en servir, je ne doutais pas que ce fût le cas. Puis il appuya sur un bouton près du pontet. J'appris plus tard que c'était le cran de sûreté que le type avait débloqué. Attrapa le petit cylindre sur le dessus de l'arme, le souleva et le tira en arrière, vérifia la chambre ouverte, puis procéda à une manipulation qui fit tomber le chargeur dans sa paume.
Bon sang !
Le diacre sortit 2 balles. Il n'y en avait pas plus.
« Vous n'avez pas trouvé d'autres cartouches dans ses poches ? » me demanda-t-il.
« Non, ni sous la veste de Yeti. Mais je n'ai pas réussi à fouiller ses poches arrière. »
Le diacre secoua la tête.
À moins qu'il n'ait utilisé toutes leurs munitions pour leur carnage au camp de base, il doit y en avoir d'autres quelque part. Peut-être dans le sac à dos de ce Yeti, caché au milieu des pinacles ou des arêtes de glace. Quel idiot dresse une embuscade pour 5 ou 6 personnes en ne gardant que 2 cartouches dans son chargeur et aucune dans la culasse.
Ne sachant quoi répondre, je restais silencieux. Je n'étais même pas très sûr d'identifier une culasse.
Nous allons fouiller les environs immédiats pour essayer de retrouver son sac. Vous pouvez utiliser vos lampes frontales. Je vais me servir de la grosse lampe électrique. Mais nous n'y passerons pas plus de 5 ou 10 minutes. Jean-Claude et Reggie ont besoin de nous.
Une fois encore, je me pliais en 2, secoué par une nouvelle quinte de toux. Quand je me redressais, je sentis la main de Passang sur mon épaule.
« Tenez, buvez ça, Monsieur Perry, »
dit-il en me tendant une petite bouteille.
« Tout. »
J'avalai le breuvage qui me brûla le gosier comme du feu liquide. En 30 secondes, le besoin de tousser était passé, de même que la sensation d'avoir un bréchet de dinde coincé dans la gorge.
« Qu'est-ce que c'est que ce truc ? »
demandai-je à Passang dans un murmure, alors que nous suivions le diacre hors du cercle de lumière rouge projeté par la lampe électrique du Yeti.
« De la codéine, »
chuchota-t-il en réponse.
« Je vous en redonnerai si la toux revient. »
Nous allumâmes nos lampes frontales et cherchâmes pendant presque 1 quart d'heure. Mais si nous vîmes des empreintes de bottes derrière des arêtes et des piliers de glace, nous ne trouvâmes aucun sac à dos contenant des cartouches. Enfin, le diacre nous fit signe d'abandonner et nous repartîmes. Je sentais la frustration de notre leader brûler comme une flamme bleue dans l'obscurité. À quoi pouvait bien servir un pistolet semi-automatique allemand avec seulement 2 cartouches ?
C'est mieux que pas de pistolet et aucune cartouche, me dis-je.
Je crois que j'essayais de me persuader que mes efforts pour descendre dans cette crevasse n'avaient pas été vains. Une fois que nous nous fûmes éloignés de la crevasse et que nous eûmes repris l'ascension du glacier, le diacre se retourna, posa la main sur mon épaule et demanda
« Jake, je ne voulais pas en parler à Jean-Claude, mais je préférais que ce soit vous qui descendiez dans la crevasse,
dans l'espoir que vous reconnaîtriez peut-être le type sans son masque de Yeti. Est-ce le cas?
C'est possible.
Peut-être.
Oui, je crois.
Le visage d'un mort, avais-je appris, ne ressemble pas toujours à ce qu'il était vivant.
Bon, alors dites-moi qui c'est, bon sang.
Karl Bachner, répondis-je. Le camarade alpiniste de Bruno Siegel, le plus vieux. Celui qui était célèbre et présidait ou avait fondé tous ses clubs d'alpinisme allemand. Il était à la table avec nous le soir où nous avons rencontré Siegel à Munich, à l'automne dernier.
Le diacre était suffisamment proche de moi pour que je distingue ses traits dans la pénombre. Il ne paraissait pas étonné.